population française qui, de 1701 à 1801, s'était accrue de 50%, ne s'est plus accrue de 1801 à 1901 que de 30%. Et c'est grave, à ce rythme, que sera la France dans 100 ans? Il faut à la France une politique de la population. Il faut à la France des enfants qui rient et qui jouent, des enfants qui seront demain des travailleurs et des gardiens, qu'on y prenne garde. La grandeur est encore souvent fonction du nombre.
La grandeur est encore souvent fonction du nombre. On est en mars 46. Au moment du recensement, les actualités françaises s'inquiètent de la natalité. 75 ans plus tard, toujours ce souci. Hein. Nous, les bons élèves de l'Europe, nous voici avec le contraire du baby-boom, avec un baby-crack déclenché par le Covid, baisse historique des naissances. Mais attention, elle s'inscrit en fait dans une tendance plus longue. Depuis 6 ans, les Françaises font moins d'enfants. Les Italiennes aussi. Quant aux Chinoises, quant aux Américaines, c'est pire. Les fabricants de couches, les producteurs de lait en poudre se rongent les ongles. Alors pour la France, la question c'est ensuite, lorsque le virus sera maîtrisé, est-ce qu'il y aura un rebond du moral et des projets? Est-ce qu'on mettra moins d'argent sous le matelas? Et puis au-dessus, est-ce que l'angoisse aura disparu? Le nombre, la démographie, c'est important bien sûr pour la grandeur d'un pays, mais pas seulement. La puissance, c'est surtout d'avoir les moyens de ses ambitions. Financer son modèle social par exemple, ses retraites. Et là, avant de s'inquiéter pour le nombre de bébés qui arrivent à la maternité, la solution ce serait peut-être de s'occuper du nombre de jeunes qui arrivent à trouver un boulot.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, l'économie ça se discute par ici, le magazine de l'écho est réalisé par Juliette Gou et Lauriane Toulmont. C'est Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi et Benjamin Troncin qui nous met à l'antenne ce matin. Ce 27 février, une grande partie du mag va être consacrée à nos entreprises publiques, à commencer par la SNCF. Le Covid, la dette, l'arrivée de la concurrence, des questions sur notre champion que je poserai à nos débatteurs. Ils sont là et je les salue. Vincent Grimaud, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous faites partie de la rédaction d'Alternatives économiques. Et bonjour à vous, Laurent Bigorgne.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Institut
Montaigne.
De la rédaction d'Institut Montaigne, non. De l'Institut Montaigne, dont vous êtes le directeur. Et puis, on zoomera sur La Poste, elle aussi dans une équation compliquée. Toujours moins de courriers. Quel avenir quand son activité historique est en train de se réduire à peau de chagrin? Nous en parlerons avec le PDG de La Poste, Philippe Val, qui sera dans ce studio à 9h45. Juste avant 10h, ce sera le moment Foulon. Elle répond à vos questions de vie au boulot. Bonjour Sandrine, je crois que vous êtes là dans les tuyaux. Je vous ai entendu.
Absolument. Bonjour Alexandra.
Sandrine, ils sont nombreux les auditeurs qui vous interrogent sur la vaccination.
Oui, sur la confidentialité de la vaccination contre le Covid en entreprise. Et on a une question de Sophie qui se demande si son employeur pourra mettre fin à son télétravail ou l'envoyer en clientèle dans la mesure où elle est vaccinée.
Question intéressante. La réponse, c'est tout à l'heure, juste avant 10h. Mais pour commencer, Sandrine, Laurent, Vincent, je vous propose de faire un saut aux États-Unis. Comme dirait le chef du gouvernement, il se passe quelque chose.
The American people need to know that help is on the way.
The yeas are 219, the nays are 212, the bill is passed.
Bon, si on regarde le nombre de voix, the bill is passed, c'est pas vraiment une déferlante, mais la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, Nancy Pelosi, vient de nous dire que oui, le plan de relance de Joe Biden est approuvé. Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Pierre-Yves, vous êtes correspondant de France Inter à Washington, où l'événement ce matin pour nous, cette nuit pour vous, c'est donc ce méga-giga plan de soutien à l'économie, adopté à quoi, il y a tout juste une heure.
Oui, 1900 milliards de dollars, c'est à peu près 9% du PIB des États-Unis. C'est un plan considérable même à l'échelle américaine. Il est censé aider l'Amérique à surmonter la crise du Covid. Il a de très bonnes chances maintenant d'être adopté aussi par le Sénat dans quelques jours et donc d'être sur le bureau de Joe Biden d'ici la mi-mars. Les Républicains vont voter contre. Il souligne que un tiers de ces 1900 milliards de dollars ne pourra même pas être dépensé avant 2022. Mais c'est un plan qui est jugé nécessaire pour acheter davantage de doses de vaccins, distribuer des chèques de 1400 dollars à des millions d'Américains, aider des entreprises à ne pas licencier, énormément d'argent, ce qui fait tout de même trembler Wall Street, qui découvre dans quelle proportion l'oncle Sam et l'oncle Joe à la Maison-Blanche est en train d'utiliser cet argent gratuit.
Et justement, Pierre-Yves, ce qui se passe en bourse, est-ce que c'est une sonnette d'alarme et en quoi ça nous concerne, nous, Européens?
Alors, ça inquiète Wall Street à la fois parce que ça fait remonter les rendements obligataires et ça fait baisser les actions. On a peur de l'inflation, on a peur de la surchauffe. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le taux d'épargne des Américains est déjà très élevé, plus de 20%. Dès que le seuil critique de vaccination sera atteint, c'est-à-dire probablement au mois de mai-juin, des centaines de millions d'Américains vont dépenser énormément d'argent. 70 millions sont déjà vaccinés. On sait que dès aujourd'hui, le secteur industriel américain tourne au plus vite depuis 2 ans et demi. L'inflation est probable, même si la Banque centrale nous assure qu'elle ne va pas durer, car on est encore très loin du plein emploi. Et puis cette affaire concerne les Français, parce qu'une surchauffe américaine aggraverait la hausse des cours des matières premières, qui a déjà bien commencé, ferait grimper les taux d'intérêt en Europe, compliquerait donc la sortie de la crise sur le vieux continent, un vieux continent où on vaccine beaucoup moins vite qu'aux États-Unis. Et puis le surendettement public américain est un problème pour l'économie mondiale puisque le dollar est toujours une monnaie de réserve.
Pierre-Yves Dugas, merci à vous. Laurent Bigorne, je me tourne vers vous. Est-ce que ce plan de relance américain, ces 1900 milliards de dollars qui font trembler Wall Street, qui sont inquiétants, sont aussi inquiétants pour... Enfin, qui sont inquiétants pour certains, sont aussi inquiétants pour vous?
On en parlait avant l'élection même de Biden. Hein. Il y avait déjà ce débat. Ce qui est intéressant, c'est le risque pointé par le Français Olivier Blanchard et l'Américain Larry Summers d'un surcalibrage du plan Biden, donc avec un risque de surchauffe. J'en tire une leçon, hein, c'est qu'il est très 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 important que nous en Europe et particulièrement en France, si on ne veut pas s'exposer à un risque de remontée des taux du fait de l'inflation, on travaille sur la couche structurelle de nos dépenses publiques, de leur efficacité, et donc on arrive à diminuer notre situation d'endettement hors crise.
Même question pour vous, d'un mot, Vincent Grimaud. Le plan de relance américain, est-ce que c'est un souci finalement pour l'économie mondiale et européenne, par exemple ?
Non, pour l'instant, il y a eu un petit frémissement sur les taux, mais ça reste très modéré. Hein. Et puis, il faut rappeler qu'on avait anticipé déjà ça. Le projet de budget 2021 de la France, il a pris pour hypothèse un taux de 0,7% hein, pour les prêts à 10 ans. Donc, on a encore de la marge. Structurellement, on a un excès d'épargne dans le monde et ça pousse les taux longs à la baisse. Donc, dernier cas de figure, si vraiment ça s'envolait, la BCE interviendrait. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Allez, retour en France. Ce matin, dans votre débat, un zoom sur la SNCF, notre compagnie ferroviaire nationale, qui a présenté ses résultats. En gros, c'est le bilan de 2020. On n'a pas vraiment de surprise. Le Covid a fait dérailler les comptes. Le patron, Jean-Pierre Farandou, était chez nos amis de France Info.
La crise nous a touchés, bien sûr. Hein. Le premier semestre 2020 a été violent.
Jean-Pierre Farandou.
Seulement 7% des trains qui circulent, 1% de la fréquentation.
PDG de la SNCF.
On a réagi sur le plan économique en mettant en place un plan d'une grande ampleur, puisqu'on a réussi à récupérer 2,5 milliards de cash, ce qui fait qu'on a presque divisé par deux l'impact du Covid. L'impact du Covid, c'est en gros 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires de perdu, beaucoup sur le TGV. On a récupéré 2,5 milliards d'économies, ce qui fait qu'au total, on arrive à ces 3 milliards d'euros de pertes.
Pas ou peu de déplacements et beaucoup de télétravail, tout ça évidemment pèse sur les comptes.
La dette est d'environ 38 milliards d'euros. Cette dette, elle provient de cette dette historique, hein, de cette fameuse dette accumulée pour financer la construction du réseau ferroviaire français,
oui,
notamment des lignes à grande vitesse. Exactement, ça vient de là. Et là, tout récemment, effectivement, l'État a aidé la SNCF à travers le plan de relance, hein, qui nous a permis d'avoir 4,7 milliards d'euros. Ça nous permet de poursuivre cet effort de renouvellement du réseau, de remplacer les rails, de remplacer le ballast, de remplacer les caténaires. Je rappelle qu'en France, l'âge moyen du réseau ferroviaire français est de 37 ans, quand on le compare à l'âge moyen du réseau allemand qui est de 17 ans.
La grève des transports, la crise du coronavirus, tout ça a été quand même très très compliqué pour la SNCF et il faut se relancer évidemment.
Il est évident qu'il faut que le TGV reparte vite et fort à la fin de la crise sanitaire. Moi quand je suis arrivé à la SNCF il y a un an et demi, j'ai entendu les clients, les usagers, les associations dire le TGV c'est cher. On va venir avec des adaptations, je pense profondes de la gamme tarifaire pour que tout le monde puisse accéder au train, qu'il n'y ait pas de problème de pouvoir d'achat. Le deuxième élément c'est l'écologie. Quand vous pensez que le train, un voyage en TGV, c'est 50 fois moins de CO2 qu'un voyage en voiture, 80 fois moins qu'un voyage en avion. Franchement, si vous êtes sensible et que vous voulez sauver la planète et préserver le climat, il faut prendre le train.
La SNCF, entreprise patrimoniale, championne nationale, service public. Bon, des gros soucis d'aiguillage quand même. Alors ce samedi, dans le débat, on pose des questions sur l'avenir de notre champion français. Des questions qui intéressent, j'espère, les auditeurs qui sont voyageurs et contribuables. Vincent Grimaud, la SNCF face au Covid, comment ça s'est passé ?
Effectivement, quand vous avez 1% de fréquentation au premier semestre, c'est compliqué pour une entreprise. Et donc, évidemment, le gros souci du train à la SNCF, SNCF, c'est le TGV. Ça a été pendant longtemps la poule aux œufs d'or de l'entreprise. Et là, c'est son boulet parce que ce sont des lignes qui ne sont pas subventionnées. Les lignes qui ont été subventionnées comme les TER, qui sont financées par les régions, les pertes, elles ont été pour les régions. Là, les pertes sont vraiment pour la SNCF. Mais c'est une situation, j'allais dire, normale, mécanique. On voit qu'en Allemagne, la Deutsche Bahn a fait des pertes de 3,7 milliards d'euros au premier semestre, quand la SNCF a fait 2,4, et que l'État allemand a recapitalisé la Deutsche Bahn, tout comme l'État français a recapitalisé la SNCF. Donc, j'allais dire, c'est normal. Et puis, quand on analyse le bilan de la SNCF, il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est que la SNCF, c'est pas que des trains. Alors, il y a SNCF voyageurs, ça c'est les trains, mais il y a aussi SNCF réseau, ça c'est l'infrastructure, il y a SNCF fret, pour le fret, il y a Keolis, qui fait des transports en commun dans les grandes villes mondiales, et puis Geodis, qui fait de la logistique. Et donc, quand vous regardez, quand vous voulez faire la photo des comptes de la SNCF,
groupe, en fait,
du groupe, c'est très compliqué, parce que c'est quoi les recettes de SNCF réseau, par exemple? Ce sont les trains donc de SNCF voyageurs et de SNCF fret qui passent, puisque SNCF réseau prend des péages sur ces trains. Donc, vous avez des vases communicants entre les recettes des uns et les dépenses des autres, qui font que c'est assez compliqué d'avoir une photo globale. Globalement, il n'y a pas eu de catastrophe vu la catastrophe de la fréquentation.
Je crois que Jean-Pierre Farandou, on l'a entendu, il parle même de résilience de son modèle économique. Il dit que finalement, il a limité la casse. Laurent Bigorne, vous, quelle est votre photo? Est-ce que Vincent parlait de Deutsche Bahn? Oui, peut-être que finalement, il y a une comparaison à faire.
Vincent a raison de rappeler que la SNCF, c'est un groupe considérable. Quand on regarde à l'échelle mondiale, ça doit être le quatrième groupe de transport au monde. C'est l'équivalent du PIB de la Côte d'Ivoire. C'est donc quelque chose de très, très, très important. Il n'en reste pas moins que, quelle que soit la difficulté d'isoler telle ou telle, évidemment, activité. On a parlé du TGV, on aurait pu parler d'Eurostar, qui est une filiale de la SNCF. Là, on est au bord de la catastrophe encore aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que sur un chiffre d'affaires de 35 milliards en 2019, on est arrivé à 30 en 2020, donc c'est peut-être moins grave que ce qui avait été anticipé, mais on visait en 21, 37 milliards. Donc il y a un sujet par rapport à ce qu'on a perdu et par rapport à ce qu'on visait. Pourquoi? Parce qu'on est engagé dans une loi, qui est le nouveau pacte ferroviaire du printemps 2018, et qui doit permettre à la SNCF de retrouver une trajectoire d'équilibre financier à horizon 2022. Et donc, ce sur quoi il va falloir maintenant se pencher, c'est: est-ce que la loi de 2018, avec tout ce qu'elle prévoyait pour préparer l'ouverture à la concurrence, reste viable ou pas? Maintenant, pour aller sur la Deutsche Bahn, c'est intéressant parce que c'est un groupe qui est quand même plus gros que la SNCF, il fait plus d'une cinquantaine de milliards de chiffre d'affaires.
Alors, la Deutsche Bahn, il faut la compagnie allemande.
C'est les chemins fermés, à 100% détenu par le gouvernement fédéral allemand. Perte vertigineuse également, 10% versus 14% pour la SNCF, et c'est des points qui valent cher, c'est pas exactement la même situation. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, avait raison de rappeler que le réseau allemand, là où on dit que les infrastructures allemandes sont toujours moins bonnes que les nôtres, est dans une meilleure situation que les nôtres. Ça veut donc dire que l'avenir de la Deutsche Bahn est d'une certaine façon plus radieux du point de vue de l'investissement, et se pose une question qui est celle de la dette. La SNCF reste beaucoup plus endettée que son compétiteur allemand. Pourquoi je dis compétiteur? Parce que dans le cadre de la mise en concurrence, il y aura des rames allemandes qui vont circuler sur le réseau français dans les 4 à 5 années qui viennent. Et aujourd'hui, la Deutsche Bahn est beaucoup moins endettée que la SNCF en part relative. Et ça, c'est un enjeu pour le futur.
Bon, on voit que le tableau, quand même, c'est une équation compliquée, en fait. Vincent, on a l'impression que la SNCF, elle est prise dans une espèce de bourbier ou de crise qui n'en finit pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et là, je crois qu'on commence à avoir une idée, mais vous allez nous la préciser. Est-ce qu'on peut dire quel est le problème de fond de la SNCF?
Il y a trois sujets. Si vous voulez regarder si la SNCF travaille bien, vous regardez la fréquentation, la qualité de l'offre et le coût. Alors sur la fréquentation, le train a quand même plutôt le vent dans le dos, malgré le règne de la voiture pas chère. On est à l'époque de la voiture massive. Le train résiste à 9% des déplacements en France, et le trafic a doublé depuis 70 ans, pendant que la population française faisait plus de 50% seulement. Donc le train s'est développé avec le succès du TGV qu'on connaît, la renaissance des trains express régionaux aussi, qui sont gérés par les régions depuis 2002 et qui sont plutôt bien gérés, et puis le succès du Transilien en région parisienne. Sur la fréquentation, il y a trois petits échecs, petits parce que c'est des petits volumes, c'est les intercités, les trains de nuit.
Les intercités,
évidemment, les intercités, c'est le Bordeaux-Nantes par exemple, qui n'est ni un TGV ni un TER. Les trains de nuit qui vont pas très fort non plus et qui vont être relancés, et le fret. Sur la qualité de l'offre, on connaît tous les critiques sur le retard de la SNCF, etc. Mais en fait, les études internationales, et notamment une étude du Boston Consulting Group, nous montrent que il n'y a pas de retard français particulier. Les trains sont globalement à l'heure et globalement aussi sûrs que nos voisins allemands, notamment. Donc, par contre, effectivement, il y a le tableau d'un réseau vieillissant qui, là, est inquiétant. Et puis, il y a la dernière question du coup, mais on va y revenir avec Laurent, j'imagine.
Oui, Laurent, même question, le problème de fond, finalement. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment d'une crise qui n'en finit pas à la SNCF? Et est-ce qu'il y a un des problèmes de fond qu'on n'arrive pas à régler?
Il ne faut pas faire de procès injuste à cette entreprise. Je veux dire que toutes les entreprises ferroviaires au monde ont des difficultés, notamment de maintien du réseau. On peut prendre un pays dont le fonctionnement social est exemplaire comme les Pays-Bas. La question du train aux Pays-Bas, qui est pourtant un pays très dense, est pas exceptionnelle. Les retards sont fréquents, la qualité du service est souvent questionnable. Jean-Pierre Farandou, il a déjà fait, et c'est mon point, il a déjà fait front à deux énormes crises depuis qu'il est arrivé. D'abord, et qui ne sont pas des crises qu'il a provoquées lui. La première crise, c'est la grève d'un mois et demi contre la réforme des retraites en décembre 19 et janvier 2020, je pense qu'on s'en souvient, qui suivait elle-même la crise de 2018 sur la réforme, évidemment, de l'entreprise. Et on voit bien que socialement, il y a un sujet à la SNCF qui fait que trop souvent les organisations syndicales ont tendance à prendre l'entreprise et les usagers en otage, et ça c'est un des problèmes, j'allais dire, qui fait partie du modèle dont on doit parler ce matin. Maintenant il y a la crise de la pandémie, et la crise de la pandémie à la fois elle va ajouter énormément de difficultés, et comme l'a dit Vincent, il ne doit pas faire oublier un certain nombre de gros sujets. Moi, j'ai en tête le coût du TGV qui devient exorbitant pour les dernières lignes qui ont été créées. Ça a coûté très très cher de les créer.
Bah justement, là, Jean-Pierre Farandou dit qu'il veut faire un TGV beaucoup moins cher.
Oui, mais il l'a déjà fait avec Ouigo.
Mais prenons un exemple très concret. Quand on a construit les premières lignes grande vitesse, on construisait à 5 millions d'euros du kilomètre. Aujourd'hui, sur les dernières lignes, par exemple le Tour Bordeaux en 2015, on a construit pour 20 millions. Est-ce qu'il valait est-ce qu'il valait vraiment faire du TGV sur ces lignes ou pas?
Bah, c'est un excellent exemple, parce que cette ligne-là, le Paris-Bordeaux, en fait, a été confiée à une sorte de partenariat public-privé avec Vinci en tête de file. Et justement, Vinci a dit, moi je construis, ok, mais je fais payer des péages, évidemment, ensuite pour rentabiliser mon investissement. Et du coup, je veux 18 allers-retours par jour.
C'est pas Vinci qui a dit c'est l'État qui a proposé ce modèle.
C'est pas
le modèle de la concession.
L'État a proposé ce modèle. Mais Vinci a dit, je veux 18 allers-retours par jour. La SNCF a dit non, j'en ferai 13 parce que sinon je serai pas rentable. Je sais
mais
très bien que j'ai pas assez de voyageurs.
Rien à voir avec le coût du kilomètre. C'est des lignes qui sont plus chères que Paris-Lyon. Structurellement, il y a plus d'ouvrages à réaliser.
Non mais très bien, ok, mais on peut dire que collectivement c'est utile d'avoir un TGV Paris-Bordeaux, surtout à une époque où on veut enlever l'avion. Donc la question du coût, c'est pas seulement celle-là. Il y a la question de l'utilité. Mais là, sur le coût, c'est Vinci qui demande à ce qu'il y ait 18 allers-retours par jour, alors que la SNCF dit 13. Finalement, l'État se couche et dit, ok, on fera 18. Donc là, la SNCF sait qu'elle va perdre de l'argent, et elle le fait parce qu'on la force à le faire. Donc quand on parle de gestion financière de la SNCF, faut toujours garder en tête que
c'est la schizophrénie de l'État.
Oui, là, il y a une schizophrénie de l'État complète qui fait qu'elle ordonne à son entreprise de perdre de l'argent sur ces trains-là.
Versus l'État aménageur. Bien et sûr. On est bien d'accord, c'est un des problèmes de la SNCF.
C'est quand même un des problèmes, en effet. Qui est aux commandes? Qui décide de quoi? Et équiper les conséquences. Dans l'avenir de la SNCF, vous en avez dit un mot, il va y avoir cette ouverture à la concurrence. Ça va se passer maintenant, Vincent ?
Oui, alors il y a plusieurs types de concurrence. Il y a la concurrence sur les lignes non conventionnées, donc de TGV notamment, sur le Paris-Lyon. Depuis décembre dernier, on pourrait en théorie avoir des Italiens, des Espagnols, des Allemands qui font circuler des TGV entre Paris et Lyon. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas venus pour l'instant parce qu'ils disent qu'à cause de la crise, ils ne viennent pas, on peut les comprendre.
Parce que rentable, c'est la clientèle à faire et puis elle n'est pas là.
Exactement, donc on va voir dans les mois à venir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la concurrence, elle est dans les deux sens. Et la SNCF, notamment, vient de se lancer en Espagne sur le segment des low cost. Et puis, vous avez la concurrence qu'on appelle pour le réseau, donc sur les lignes conventionnées. Où là, par exemple, sur une ligne régionale comme Marseille-Nice, eh bien, la région PACA va dire, moi, je mets en concurrence les gens, mais par contre, celui qui gagne, je lui donne le nombre de trains qu'il doit faire circuler, le prix...
Un nouveau cahier des charges, oui.
Un nouveau cahier des charges. Donc, c'est pas de la concurrence sauvage, c'est de la concurrence régulée par un appel d'offres. Exactement comme les transports en commun à Lyon, où vous avez une entreprise privée qui exploite sur commande publique. Mmh. Et un dernier truc très important, c'est le réseau, l'infrastructure. Et là, elle reste publique, SNCF Réseau restera public, et tous les exploitants, enfin tous les pays au monde font ça. Il n'y a que les Britanniques qui ont tenté à une époque de privatiser l'infrastructure, et ils sont revenus dessus parce que c'était une catastrophe.
Alors, cette ouverture à la concurrence, donc j'entends, et on en a parlé dans cette émission, que par exemple pour les régions, ça va se mettre en place très vite, pour les grandes lignes à un peu plus long terme, mais Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que pour la SNCF, c'est une grosse épine dans le pied? On voit bien la mise en concurrence, ça va être une organisation du travail différente qui
Jean-Pierre
va arriver
Farandou
aux cheminots.
Dit, Jean-Pierre Farandou dit que non. Et il dit d'ailleurs que son entreprise se positionnera sur tous les appels d'offres. On peut s'attendre à ce qu'elle en perde, à ce qu'elle en gagne. Ça paraît assez évident. Il y a effectivement trois segments, comme l'a rappelé Vincent. Il y a le segment TGV qui est le plus visible. On verra s'il est aussi important que ça. Il y a le segment effectivement des régions qui, à mon avis, va être très structurant parce qu'il n'y a pas qu'à, mais il y a quatre autres régions.
Il y a les Hauts-de-France qui sont très en pointe.
Il y a l'Île-de-France, le Grand Est. Alors sur des petites lignes, le Grand Est, mais ça y est, ça s'est lancé. Et puis fin juillet, l'État a lancé un appel d'offres pour gérer les lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, les fameuses lignes intercités ex-grandes lignes, sachant que la concurrence, elle va se poursuivre d'ici 2024 sur les réseaux de bus en Île-de-France, 2029 pour les tramways et 2039-40 pour les RER et le métro parisien, ce qui touchera évidemment aussi la RATP.
Mais le sujet, c'est quand même ce qui va arriver aux cheminots. C'est-à-dire quand on met en concurrence, quand on fait entrer le privé face à une grande entreprise publique, le sujet c'est comment on bouge le pacte social.
Oui, il y a un point intéressant depuis 2017, c'est que la méthode qui a été choisie pour moderniser l'entreprise, c'est de s'appuyer sur les départs en retraite avec une pyramide des âges qui est avantageuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2017, on fait moins 1 à 2% par an de salariés dans l'entreprise SNCF. Et puis, vous savez bien, la loi de 2018 a mis la fin au recrutement qu'on a pris au statut, c'est-à-dire sur le statut de cheminot.
Ça, c'est quand même un événement.
C'est un immense événement, d'où le profit social qui a suivi. 7 000 salariés de moins à la SNCF depuis 2017. Rien à voir avec Air France. Dans la crise qui vient de se produire, pour qu'on ait bien les ordres de grandeur en tête, Air France, c'est 10% de salariés en moins sur le groupe.
Vincent, là-dessus. Et puis, j'ai encore une petite question avant de nous quitter. Allez-y.
Oui, non, mais sur le statut, il faut rappeler quand même que c'est pas tellement le coût du statut de cheminot qui pose problème, c'est plutôt la polyvalence des agents. Et est-ce qu'ils peuvent juste conduire le train ou aussi conduire le train, et éventuellement fermer les portes?
Ah, mais c'est tout le sujet,
Et les retraites, attention, parce que les dépenses de retraite de l'État pour SNCF, c'est plus de 3 milliards par an.
Oui, mais alors, j'avais quand même un dernier point sur le coût. Parce que moi, ça m'amuse beaucoup qu'on demande au rail d'être rentable, mais qu'on n'ait jamais demandé à la voiture d'être rentable. On paye, chacun, tous les contribuables payent 100% des 1 million de kilomètres de route dans ce pays, et on n'a jamais demandé aux routes d'être rentables. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que la SNCF soit rentable? Oui, c'est une entreprise, oui, elle est soumise à concurrence, etc. Mais quand même, elle rend un service public. Et le fond du problème, c'est qu'on demande à une entreprise publique de rendre un service public, mais avec des logiques du privé et de rentabilité du privé. Ça peut pas fonctionner sur un réseau. Il y a ce qu'on appelle en économie le monopole naturel, ça ne peut pas fonctionner.
Le rail déficitaire par nature.
Mais moi je trouve bien que les collectivités puissent choisir leur opérateur, et je trouve bien d'ailleurs que la SNCF puisse faire valoir son savoir-faire et sa culture d'entreprise aussi dans ce cadre-là. Il ne faut pas en avoir peur, me semble-t-il.
Allez, ma toute dernière question, parce qu'on va recevoir le patron de La Poste, Vincent Laurent. On a l'impression, on a EDF qui a des problèmes, on a la SNCF, on a Air France, donc La Poste, on va en parler. On a l'impression que nos grandes entreprises publiques, il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui ne marche plus. Est-ce que c'est exact?
Une des choses qui s'est cassée, c'est que c'est des entreprises qui rendaient des services publics avec une volonté de le faire sous une forme gratuite ou peu chère. Et aujourd'hui, on leur demande de rentrer dans des logiques de marché concurrentiel, et donc forcément, ça coince, comme je le disais. L'autre sujet, c'est l'État actionnaire, évidemment. Lui, il est sensible aux alternances électorales. Tel président va vouloir faire des petites lignes, tel président va vouloir faire du TGV. Et le problème, c'est que c'est des investissements à 30 ou 50 ans, le ferroviaire, par exemple, ou le nucléaire. Donc, c'est difficile. Il y a forcément une schizophrénie.
Allez, le dernier mot pour vous, Laurent, là-dessus?
Oui, moi je ne pense pas que ce soit une logique libérale ou de marché. Je pense que tout simplement la population française, dans sa sociologie, ses habitudes, ses attentes, ses demandes, son exigence a changé. La crise du Covid, elle est rude pour les entreprises publiques parce que, qu'elles soient de services ou industrielles, elles ont été très exposées à tout ce qu'on a connu depuis le printemps dernier. Je pointerai sur ce que dit Vincent, il y a une schizophrénie de l'État. Quand il est actionnaire, il dit j'aimerais bien que SNCF ou Air France gagnent beaucoup d'argent. Quand il est aménageur, il choisit de ne pas faire le terminal 4 de Roissy, ce qui est une aberration.
Laurent Bigorgne et Vincent Grimaud, les débatteurs de ce samedi 27 février. Merci à vous. On va continuer à les ausculter, alors, ces entreprises publiques. Dans 10 minutes, interview de Philippe Ball, le PDG de La Poste. Dans son paysage à lui, surtout en cette année de confinement, on a eu cette explosion de nos achats en ligne, donc du nombre de colis. C'est un écosystème qui prospère, et ce matin, on y pénètre, conduit par notre reporter Manuel Ruffez, qui remonte à la source. Au commencement du colis était le carton.
Sur D158.
Alors voilà, on arrive, on est dans une commune de l'Oise, Saint-Juan-Chaussée, et je vous emmène, Alexandra, visiter l'un des plus... Alors c'est à droite là, l'un des plus grands sites de fabrication de carton en France et en Europe, cette usine DS Smith qui se trouve donc dans le nord de l'Oise.
Je m'appelle Armand Chaigne, je suis directeur des marchés industriels pour DS Smith Packaging France. Un colis e-commerce peut subir jusqu'à 50 manipulations. Des manipulations qui vont entraîner des écrasements, des chocs.
Il passe de l'entrepôt au camion, au plus petit camion.
Il va passer de l'entrepôt à un petit camion à encore un plus petit van qui va aller chez vous. On estimait qu'à peu près, il y a 24% des colis qui n'arrivent pas à destination du consommateur à la première fois. Donc, la personne va sonner chez vous, vous n'êtes pas là. Il reprend le colis, il le ramène dans un autre entrepôt. Et puis, ça repart une fois, deux fois. Et puis, vous recevez votre colis. Puis, on vous dit, non, mais il me plaît pas. 28% des gens disent, non, mais ça me plaît pas. Donc, ils le retournent. Et donc, on se retrouve jusqu'à 50 manipulations. Et donc ça change totalement la façon dont il faut construire ces emballages. On travaille la résistance de cet emballage en multidimensionnel. À l'intérieur, on met par exemple un œuf ou une bouteille de vin, et puis on voit si au bout du bout, la bouteille de vin, elle est intègre ou pas. Et si elle est intègre, on se dit, OK, cet emballage, il est bon pour le commerce. Si la bouteille de vin, elle est cassée, on se dit, tiens, on va essayer de retravailler l'emballage pour comprendre qu'est-ce qui a fait que ça a cassé et pour corriger le tir.
Jérôme Foucard, je suis responsable santé et sécurité chez DS Smith.
Et c'est vous qui allez nous faire la visite.
Exactement.
Elle est immense, cette usine. Là, on vient de faire le tour.
50 000 mètres carrés couverts. Ça représente environ 7 terrains de foot.
7 terrains de foot.
Pour les sportifs, voilà, ça donne une idée.
Ok.
Allez, allons-y. On y va.
Et il est sportif, bien sûr, hein, Manuel Ruffez, avec son micro. Bon, 7 terrains de foot pour cette usine de carton, ça donne une idée de la demande. Cette année, on peut dire que l'e-commerce l'a tiré, plus 32% pour les ventes en ligne par rapport à 2019. Des paquets à fabriquer, des colis à transporter, puis à livrer. C'est une économie florissante, on va en parler. Mais pour l'instant, nous sommes toujours chez le roi du carton ondulé en France. C'est une entreprise britannique dans le nord de l'Oise qui s'adapte à notre folie colis.
Là, nous arrivons sur le pupitre de commande. C'est à partir d'ici en fait que l'onduleuse est pilotée. On a différents systèmes de réglage, de contrôle, qui permettent d'avoir une qualité de produits, de grammage différent en fonction des besoins de nos clients.
Les produits qui passent ici sont pour le e-commerce.
Tout ça passe dans des courroies pour plier les différentes parties de la boîte qui rentre à plat en fait dans cette machine-là.
Ces machines, elles n'étaient pas là il y a encore peu de temps, j'imagine.
Nous avions avant trois plieuses colleuses. Avec l'essor du e-commerce, nous en avons acheté une toute récente. Et on a des machines maintenant qui sont quasiment dédiées 100% e-commerce pour celles qui sont devant nous.
Le Bourget.
Nous voilà maintenant au Bourget, en proche banlieue parisienne, où se trouve le siège du groupe DHL, le leader mondial du transport express international. En 2010, il n'y a pas si longtemps, la livraison aux particuliers représentait 2% de leur activité. Aujourd'hui, c'est 50%, une évolution, une révolution.
Bonjour, Philippe Rétat, PDG de DHL Express France. Alors, ce qu'il faut que nous fassions impérativement, c'est que nous changions nos méthodes de livraison pour pouvoir livrer le plus rapidement possible. Donc à ce titre-là, nous avons mis en place des livraisons collaboratives pour pouvoir livrer dans les grandes villes de France jusqu'à 22 heures le soir. On donne la possibilité aux clients de choisir son créneau de livraison. On fait des livraisons vertes, en vélo, en triporteur et même en fait en transport en commun. Et donc on offre toute une panoplie d'outils pour que le consommateur puisse recevoir son colis le plus rapidement possible.
C'est ça, parce qu'on ne livre pas une entreprise comme on livre un particulier.
Livrer un particulier prend plus de temps, il faut parfois monter à l'étage, il faut trouver le particulier s'il est chez lui, l'appeler alors qu'une entreprise est toujours ouverte, on rentre, on dépose le colis, on prend les colis, donc ça va beaucoup plus vite. Donc ça nous oblige en fait à réfléchir, à nous réinventer. Et nous sommes assez contents puisque justement nous avons réussi à développer tout ce business et à conquérir des parts de marché en France.
Et alors ça vous oblige à embaucher, à investir ?
Tout à fait. Donc en 2020, nous avons investi plus de 13 millions d'euros. Quand on fait une rétrospective depuis les 5 dernières années, c'est 65 millions d'euros qui ont permis de modifier 80% de nos sites en France, à nos 55 sites, en agrandissant les surfaces. Et surtout, nous avons investi 170 millions d'euros pour notre nouvelle plateforme à Roissy, qui va démarrer en octobre 2021, pour pouvoir offrir à nos clients des livraisons beaucoup plus rapides, en moyenne un gain de 45 minutes le matin. Et ce qui est important, c'est que nos collaborateurs vont travailler dans de très bonnes conditions, puisque les chaînes de tri sont beaucoup plus automatisées qu'à l'heure actuelle, avec moins de bruit et puis plus de 38 000 colis à l'heure.
Derrière l'essor du colis livré à domicile, il y a des hommes et des femmes qui travaillent à la logistique et au transport. 900 000 dans la logistique, 700 000 dans les transports, plus d'un million et demi de salariés en France. Ils constituent une nouvelle caste d'ouvriers.
David Gaborio, je suis sociologue du travail au Centre d'études de l'emploi et du travail. Et depuis quelques années, je me spécialise sur les mondes ouvriers de la logistique.
Ouvriers ? Pourquoi ouvriers ?
L'INSEE les classe comme des ouvriers. Et c'est très bien parce que l'INSEE en fait tient compte du type de travail qui est effectué. Et c'est des gestes physiques, c'est des gestes répétitifs, ça ressemble vraiment à des usines. Moi j'ai appelé ça des usines à colis. Ça veut dire qu'il y a des ouvriers aujourd'hui qui travaillent dans le secteur tertiaire. Qu'un ouvrier ne va pas forcément fabriquer un objet, mais qu'un ouvrier peut simplement le faire circuler, il peut produire un flux.
Et ce sont donc des emplois plutôt difficiles ?
C'est des emplois très difficiles. C'est parmi les secteurs où il y a le plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles, par exemple, juste derrière le BTP, et notamment en raison des gestes répétitifs, de ce qu'on appelle les maladies de l'hypersollicitation. Prendre un colis, le poser sur une palette, prendre un colis, le poser sur un tapis, ou le reprendre du tapis, le poser dans un camion. Il n'y a pas une maladie de la logistique comme il y avait la maladie du mineur, c'est une usure accélérée des corps. Tout ça, c'est un coût qui est pris en charge par la société et pas par les acteurs de la logistique.
Et il y a tout ce qui est transporteur, c'est ça qui vient de se rajouter aussi à ça ?
Dans le transport, il y a ce qu'on connaît bien, les chauffeurs routiers, qui est quand même un métier un petit peu plus qualifié. Donc c'est physique, c'est long, il y a des horaires de nuit, et c'est quand même un métier qui reste pénible, mais pas au même titre que la logistique, c'est un petit peu différent. Et de plus en plus, maintenant, il y a les livreurs. Et là, par contre, on a des métiers qui sont beaucoup plus pénibles. C'est moins bien payé, c'est plus d'intérim et de travail précaire. On le sait, hein, c'est des métiers qu'on subit ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vrai contrat de travail, ils travaillent avec des applications, et ils peuvent être déconnectés à n'importe quel moment. Donc on a l'impression qu'on vit dans un monde où l'industrie diminue, où il y a de moins en moins d'ouvriers, mais en fait partout dans nos rues, il y a des livreurs à vélo. Et ces livreurs à vélo, par exemple, ils manifestaient à une époque avec une grande banderole où c'était marqué « La rue est notre usine », pour bien dire en fait on est des ouvriers, on est les nouveaux ouvriers. Sauf qu'on n'a même pas le statut qu'avaient auparavant les ouvriers. Même si c'était des métiers difficiles, les niveaux de salaire, les conditions de travail n'étaient pas aussi dégradés que dans ces secteurs-là.
La folie du colis contraint même les villes à se transformer. Aujourd'hui, 20% des déplacements en ville sont liés au transport de marchandises. Et ça fait des années que Danielle Patier, chercheuse au CNRS, spécialiste de la logistique urbaine, tente de sensibiliser les élus. Elle est aussi vice-présidente de l'association Centre-Ville en Mouvement. Danielle Patier, partons du constat. Le boom de cette économie du colis, ça a changé la vie de nos villes, n'est-ce pas ?
Ah ben, forcément, ça crée beaucoup plus de mouvements, si vous voulez. Donc, où mettons tous ces véhicules qui vont venir livrer des commerces et surtout des particuliers ? Parce que les commerces, encore, ils sont souvent sur des endroits assez accessibles. Mais les particuliers, il faut savoir que des fois, ils sont dans des endroits vraiment impossibles d'accès. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué. Parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas mettre de véhicules, mais il faut savoir quand même qu'un gros véhicule, ça évite 10 petits, donc on pollue moins qu'avec 10 petits. Et quand on rajoute tous les vélos, les tricycles et tout ça, se pose un réel problème de sécurité et de circulation. Où mettons tous ces modes de transport dans la circulation, avec des transports en commun, etc.
Et très concrètement, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil aux 1000 villes qui font partie de centres-villes en mouvement pour faire face à cette explosion de l'économie du colis ?
Eh bien déjà, nous, ça fait 20 ans qu'on leur dit qu'il ne faut absolument pas négliger les espaces logistiques en centre-ville. Parce que c'est ça qui vous donne la facilité du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est le plus compliqué à faire. Plus vous avez des produits qui arrivent au plus près de la ville, plus c'est facile après à dispatcher. Donc il faut absolument que, vous savez, on a des tas de friches dans les villes. Et ces friches sont rarement utilisées pour faire de la logistique parce qu'on trouve toujours plus intéressant de mettre des hôtels, hein, des bureaux, des choses qui sont plus lucratives. Mais il n'empêche que si on veut approvisionner la ville, il faut qu'il y ait des espaces logistiques à proximité.
Les enjeux du boom du colis, c'était le reportage de Manuel Ruffez.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Le PDG de La Poste est notre invité. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Nous avons écouté ensemble ce reportage. Le boom de la livraison des colis, ça change tout dans les entreprises, le travail, les villes. C'est ce qu'on appelle la bataille du dernier kilomètre. C'est la plus féroce ?
C'est la plus féroce et aussi la plus intéressante pour les clients, puisque nous allons non seulement jusqu'au dernier kilomètre, Alexandra Ben Saïd, mais au dernier mètre, pour leur rendre service et apporter les colis jusqu'à eux, puisque l'essentiel de la livraison se fait encore en France, jusqu'au domicile. Et dans cette livraison jusqu'au domicile, il y a un leader, et c'est La Poste.
Alors justement, c'est le plus intéressant pour les clients, est-ce que c'est le plus intéressant pour La Poste ? Vous venez de présenter vos résultats. Ce qu'on a vu, c'est l'explosion du nombre de colis livrés, un record. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la chute du nombre de courriers.
Alors, c'est très intéressant pour La Poste, parce que si nous n'avions pas fait tous ces investissements pour le colis, eh bien, nous n'aurions que la baisse du courrier. Et l'année 2020 a été, de ce point de vue, catastrophique. Nous avons perdu 1,6 milliard de lettres par rapport à 2019.
En volume, de lettres livrées.
En nombre de lettres. En nombre de lettres au début de l'année, à la fin de l'année 2019, il y avait 9 milliards de lettres distribuées en France. Contre 18 en 2008, on a déjà été divisé par deux. En général, nous perdons 600 millions en volume de lettres par an. Là, on va perdre 1,6 milliard. Donc, si nous n'avions pas investi massivement sur le colis, nous nous trouverions dans une situation quasi désespérée en n'ayant que l'attrition et la disparition programmée de la lettre devant nous. Donc, le colis, c'est une partie de l'avenir du travail des factrices et des facteurs.
L'explosion du colis en 2020, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, ça représente, je crois que le mieux, c'est de donner les chiffres de Colissimo, qui est le leader du marché. En France, un colis sur deux est un Colissimo de La Poste. Nous en avons distribué 471 millions en 2020, contre 363 millions, c'est-à-dire 100 millions de moins en 2019. Et nous avons eu également une très forte progression du haut de gamme avec Chronopost ou de la livraison pour les PME avec DPD. Donc, c'est un facteur de croissance qui vient compenser une partie seulement de ce que nous perdons sur la lettre.
C'est-à-dire que d'un côté, on a des milliards de lettres en moins, de l'autre côté, des millions de colis en plus, même si le colis, ça coûte plus cher à envoyer, à livrer pour le client. Dans les comptes de La Poste, ça ne compense pas.
Ah ben non, c'est l'année dernière a été dramatique de ce point de vue. En chiffre d'affaires, on a parlé du nombre de lettres. Maintenant, parlons chiffre d'affaires, le revenu. Nous avons perdu 1,1 milliard du côté de la lettre et nous avons gagné 380 millions du côté du colis. Vous voyez bien que ça ne se compense pas. Ça accompagne notre mouvement de diversification. Vous vous souvenez que nous avons lancé des nouveaux services. Ils ont bien progressé. Nous attendons à ce qu'ils dépassent le milliard dans les années à venir. Mais nous devons toujours lutter contre l'attrition de la lettre. Ça, c'est l'enjeu numéro un.
Alors, on va parler de votre projet pour les 10 années à venir. Mais d'abord, est-ce que, si on regarde juste les comptes, là, est-ce que vous demandez à l'État une subvention ?
Non, en fait, ce que nous demandons à l'État, c'est une chose simple. Que l'État compense les contraintes des missions de service public qu'il met à notre charge. La Poste est la seule entreprise française à avoir 4 missions de service public. Le transport de la presse, le service du courrier, l'accessibilité bancaire et l'aménagement du territoire, c'est-à-dire notre présence partout sur le territoire, de la Bretagne au département d'outre-mer, de la Bigorre au Jura, enfin voilà. Et l'État doit compenser les surcoûts que ça représente pour nous.
C'est-à-dire, ça qu'il doit faire. Fait combien ?
Alors, l'année dernière, La Poste a eu 260 millions de compensations et les charges de service public lui ont coûté bien plus qu'un milliard. Donc, nous n'avons pas besoin de recapitalisation.
Mais vous voulez, c'est quoi, 800, 700 millions ? C'est
écoutez,
ça que je comprends ?
Ça, c'est la discussion que nous avons entamée. Nos deux actionnaires, Caisse des dépôts, le premier actionnaire maintenant de La Poste et l'État, nous ont apporté du capital en 2020. Ils ont fait leur travail d'actionnaire. Là, c'est autre chose. C'est que les missions qu'on met à notre compte soient compensées, comme d'ailleurs la Commission européenne le permet.
Alors justement, Philippe Val, on se demande, dans ces conditions-là, ce qu'elles vont devenir vos missions de service public. La lettre, il y a une attrition. Est-ce que dans 10 ans, La Poste, si elle distribue plus de courriers, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'il y a encore des bureaux de poste ? Est-ce qu'il y a encore une tournée 6 jours sur 7 ? Est-ce que vous avez envie de renégocier ces missions ?
Alors nous, d'abord, Nous, les postières et les postiers, on est prêts et on est demandeurs d'exercer ces missions de service public. Nous ne sommes pas en train de chercher à les éteindre. C'est très important. Et vous me posez la question de la présence territoriale. Nous sommes prêts et décidés à rester sur le terrain partout.
Mais comment? Vous savez bien que si on regarde la presse quotidienne régionale, c'est plein. Les bureaux de poste traditionnels qui ferment, remplacés par des points de contact. Les élus, les électeurs disent qu'ils ne sont pas très contents.
La seule façon qu'on a de garder un bureau de poste, c'est de le fréquenter. Nous ne pouvons pas échapper à la règle économique qui est valable pour les services publics comme pour tous les services, et vos auditeurs le savent. Si un magasin, si un lieu n'est pas fréquenté, alors il faut le fermer ou le transformer. Mmh. Alors comment est-ce qu'on va rester sur les territoires ? En discutant avec les élus, en convainquant des millions de personnes de rester dans les bureaux de poste, en développant des produits dans ces bureaux de poste.
Par exemple, alors ça va être quoi la Poste ?
Vous voyez, par exemple, on a aujourd'hui 2 millions de clients de téléphonie mobile. La Poste a 2 millions de clients de téléphonie mobile. Et c'était zéro il y a 10 ans. Donc, il y a aussi la nécessité, vous avez parlé des points de contact avec les communes, de mutualiser notre présence avec les communes, partagé dans des agences postales communales, avec des associations, avec d'autres entreprises. La volonté de la Poste, des postières et des postiers, c'est de rester présente territorialement.
Et là, je tournais 6 jours sur 7 ?
Moi, j'y suis extrêmement attaché. Je crois l'avoir dit dans la presse, je vous le redis. Les factrices et les facteurs doivent rester disponibles pour les gens. Ils sauvent des centaines de personnes chaque année, ils rendent des services incroyables, ils profitent bien sûr de cette croissance du colis. Ma préférence, à moi, c'est 6 jours sur 7 parce que c'est ce que nous demandent les gens et les gens nous demandent la proximité humaine.
Mais si on ne change rien, l'équation est difficile. Vous dites on perd énormément d'argent et on ne change rien. Enfin là j'entends ni...
Non, je ne dis pas on ne change rien.
Alors sur quel curseur on joue ?
Alors on doit jouer sur plusieurs curseurs. Le premier curseur, c'est l'offre. Il va falloir qu'on réfléchisse à l'offre. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans, les familles françaises écrivaient une cinquantaine de lettres rouges, urgentes par an. L'année dernière, c'est 5. Donc, nous devons poser la question du J+1. Est-ce qu'il est encore utile ?
Ça, c'est la distribution le lendemain de l'envoi.
Voilà, okay. La distribution le lendemain de l'envoi. Est-ce qu'il est encore utile ? Alors qu'on a tout ce qu'il faut comme moyen d'urgence de communication, de garder une lettre rouge. Mais fondamentalement, ce que nous cherchons à faire, c'est être disponible tous les jours, 6 jours sur 7 pour nos clients. Et d'ailleurs, nous avons annoncé avant-hier que nous allions lancer au cours de cette année le rendez-vous facteur qui permettra à tous les clients par Internet de prendre un rendez-vous avec leur facteur pour remettre un colis, pour remettre une lettre recommandée.
Il faudra se déplacer ou le facteur...
C'est le facteur qui passera chez vous.
D'accord. Nouvelle offre de service et remise en question du J+1, mais toujours le même nombre de points.
Ben non, le nombre de points de contact va être géré. C'est une question que vous m'aviez posée il y a 2 ans, avec les collectivités locales. Ouais. On va décider avec les collectivités locales. Si le bureau de poste est fréquenté, il restera. Je peux même vous parler du bureau de poste qui existera dans un siècle, Alexandre Ben Saïd. Je sais qu'il sera encore ouvert. Ce bureau de poste, il est au Mont-Saint-Michel, où le bureau de poste est dans l'office du tourisme et où l'office du tourisme est dans le bureau de poste. Mmh. Ben, le Mont-Saint-Michel, il sera visité dans un siècle encore et il y aura du monde. Et s'il y a du monde, les bureaux de poste sont ouverts.
Philippe Val, j'ai une dernière question. On a eu énormément de courriers d'auditeurs, sachant votre venue, qui nous ont écrit, qui nous disent qu'ils sont mécontents. Le facteur ne remet pas les recommandés, il ne remet pas les colis, mais juste un mot, puis il s'en va. Et puis en même temps, on a, je suis sûre que vous en avez entendu parler, ce livre d'un sociologue qui s'appelle « Le cachet de la Poste », Nicolas Jounin, qui est très dur avec la Poste sur les normes, les cadences. Vous imposeriez, pour remettre un recommandé, à peine plus d'une minute, pour une tournée 3h43, 3 59 secondes. Qu'en pensez-vous ? Que dites-vous à la fois aux postiers, et puis aux facteurs, et puis aux usagers?
Alors d'abord, pour les factrices et les facteurs, eux, ils savent comment ça fonctionne. Ils savent qu'on discute les tournées avec eux et qu'on a des méthodes de mesure. Et évidemment, on n'impose rien. On cadre le travail et je pense que c'est ça qui est essentiel et on le négocie avec les organisations syndicales. Ça, c'est la première chose. quant aux usagers, je reçois leurs besoins de poste. Je remarque aussi qu'aujourd'hui, 97% des colis sont livrés avec succès la première fois. Pour les 3% qui restent, eh bien, on fait une deuxième présentation. Et ce n'est qu'en cas d'échec de la deuxième présentation qu'on le dépose dans un bureau de poste. Donc, on est à l'écoute des clients. On est en permanence à l'écoute des clients et les factrices et les facteurs sont les premiers à écouter leurs clients.
Philippe Val, le PDG de La Poste, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
Sandrine Foulon, on a beaucoup de questions aussi sur la confidentialité de la vaccination contre le Covid en entreprise. Vous avez choisi ce matin la question de Sophie. Elle se demande si son employeur pourra mettre fin à son télétravail ou l'envoyer en clientèle dans la mesure où elle sera vaccinée.
Alors déjà, Sophie, sur la confidentialité, vous n'avez pas à informer votre employeur que vous faites partie des salariés qui peuvent se faire vacciner en entreprise depuis jeudi. C'est le cas de toutes celles et ceux qui ont entre 50 et 64 ans et qui souffrent de comorbidité, diabète, cancer, maladie cardiaque ou respiratoire. On imagine bien que vous n'avez pas forcément envie que votre employeur soit au courant. Mais quand je dis en entreprise, c'est plutôt dans les centres de médecine du travail, donc hors du bureau. C'est évidemment plus complexe si votre employeur dispose d'un service de médecine du travail interne. C'est fréquent dans les grosses structures. Pour éviter de croiser des collègues ou votre chef dans les couloirs, vous pouvez aussi aller voir votre médecin généraliste. Mais que ce soit dans l'entreprise ou en dehors, le secret médical est impératif. Et quand bien même vous préférez dire à votre entourage professionnel que vous êtes vacciné, en aucun cas, Sophie, votre employeur peut mettre fin à votre télétravail pour cette raison. Il n'a pas non plus le droit de vous envoyer en première ligne à la place de quelqu'un d'autre, sous prétexte que vous seriez immunisé. D'autant que le sérum AstraZeneca qui est administré aux salariés pourrait être moins protecteur que les ARN messagers.
Sandrine, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, on aurait un passeport vaccinal pour aller travailler en présentiel, comme on dit, un peu comme pour entrer dans une salle de sport ou pour voyager?
Alors non, ce serait discriminant. La vaccination doit se faire sur la base du volontariat. Il n'y a que la loi qui puisse l'imposer et bien sûr quelques réglementations pour des professions spécifiques. Un soignant dans un EHPAD, par exemple, doit être immunisé contre l'hépatite B. Les entreprises peuvent inciter, proposer des campagnes comme elles le font pour la grippe. Elles ont l'obligation d'informer tous les salariés de cette possibilité de se faire vacciner contre le Covid, mais pas plus. Et puis, avant même de parler d'un passeport vaccinal, encore faudrait-il pouvoir se faire piquer. Les salariés peuvent toujours prendre rendez-vous auprès de leur médecin du travail. Mais la première semaine, ces praticiens devaient recevoir chacun un flacon de 10 doses seulement. Ce devrait être 2 à 3 flacons dans les semaines qui viennent. Mais certains médecins n'ont reçu aucune dose. Il y aura des listes d'attente. Et pour tous les autres salariés, c'est vraiment pas pour tout de suite.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.